6h44. On va dans le trafic, c'est possible pour vous autres de nous texter, c'est sécuritaire. Textez-nous 418-971-101, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Qu'est-ce qui se passe sur la route, Max?
Il y a juste un peu d'attente pour la porte nord, mais c'est tout.
Entente Canada-États-Unis, on commence à avoir des petites brides là, de ce qui pourrait être signé dans les prochaines heures. On a le plaisir de recevoir en studio Frédéric Boisvert, qui est PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Salut Frédéric, c'est toujours Bonjour. Un plaisir de t'avoir. C'est un privilège en fait de t'avoir. On a une imminence grise des affaires avec nous autres.
Ben oui. Puis qui se déplace à 6h45 quand même en studio. Ouais,
ça c'est bon.
Ouais, c'est très bon.
On a tissé des bons liens.
Ce qui me fait un peu halluciner, c'est que les élections vont être déclenchées bientôt. Puis si tu m'avais, si t'avais gagé avec moi un 2$ sur Fred Boisvert qui allait se présenter, là, j'étais persuadé qu'il allait se présenter.
Non.
Tu ferais un bon porte-parole pour Québec solidaire.
Ah, ben, putain, c'est original comme pensée. Non, moi, je vous l'ai dit, les gars, moi, j'ai fait 10 ans politique. Ouais. Je ne retourne pas là-dedans.
Non, c'est
pas,
correct. Hein.
Allez, tour est faite.
Ouais. Les négociations, bon, on ne sait pas tout, là. Max nous a parlé de quelques brides tantôt, mais on reviendrait à la menace initiale de 25%, entre autres pour ce qui est de l'acier et l'aluminium, bien entendu. Pour ce qui est de l'automobile, ben, on était à 25, on redescendrait à 15. C'est-tu une victoire pour le Canada?
Ah, d'aucune façon, là. Je veux dire, on peut bien parler ce matin de pourcentage, mais au final, on parle de restriction du marché américain, puis on parle de réduire la restriction au marché américain. Je veux dire, il n'y a pas de cas de figure selon lequel le Canada gagne d'aucune espèce de façon. Alors, ce qu'on a, ça, à terme, c'est un accès réduit au marché américain, des tarifs qui vont probablement perdurer dans le temps. Tu vas sûrement m'en parler, mais la question du lait est fondamentale parce que c'est celle qui risque d'être la plus coûteuse.
Ah oui?
Ben oui, parce que moi, quand j'étais justement, on parlait de politique tantôt, moi j'étais 10 ans fédéral, tu sais, j'étais staffeur là-bas, chef de cabinet des ministres, au bureau du PM également, puis quand il y a eu l'accord du libre-échange avec l'Europe, il y a eu, on a concédé des pourcentages sur le marché du lait au Canada, surtout en regard des fromages, on devait apparaître beaucoup de fromages après, les très maigres pourcentages qu'on a consentis au bloc européen, ont résultant des milliards de compensations aux fermiers canadiens. Là, on ne sait pas comment réconcilier les propos de Donald Trump avec ce que dit Dominique Leblanc. Ça le fait pas. Même si tu penses en termes de catégories, j'ai pris des notes, il y a plein de catégories là-dedans. Le lait, la crème, les laits concentrés, les autres produits laitiers, les fromages, le beurre, la poudre de crème. Tu sais, il y en a qui disent les Américains n'utilisent pas tous les quotas auxquels ils ont accès au Canada, les droits d'accès au marché. Mais ça, c'est de la sémantique, ça. Là. Au final, là, si, comment je peux dire, des pourcentages concédés au Canada, là, ça va nous coûter une beurrée. Oui, Donald Trump est extrêmement bon dans les superlatifs quand il dit qu'il y aura un plein accès. Écoute, si c'est le cas, là, il va falloir qu'on s'hypothèque tout là, parce que ça va coûter une grosse beurrée. Alors, il faudra voir. Puis là, autre chose que je remarque, c'est quand Mme Fréchette dit « ben moi, je ne laisserai pas l'accès aux spiritueux puis aux vins américains dans les tablettes de la SAQ », ben, le problème, c'est que si tu veux soulager la pression pour tes manufacturiers au Québec, il va falloir que tu le fasses dans le cadre de l'accord. Sinon, tu ne pourras pas bénéficier. Je veux dire, il va tout falloir qu'on se tienne au Canada. Là. Il ne pourra pas y avoir personne qui fait cavalier seul. La force, ça va être tellement une force pour au moins les petites concessions, les avoir, en profiter, que ça sera intenable pour n'importe quel gouvernement qui voudra dire « Non, moi, je veux pas d'alcool dans nos... » Je le vois pas, le cas de figure. Je le vois pas.
La gestion de l'offre, ça profite à qui? Je sais que ça protège la production, ça protège un peu le producteur. Mais j'ai plus l'impression que c'est eux qui font la transformation, qui se font un pactole, des milliards et des milliards.
Tu avais raison.
Mais pourquoi on y tient tant que ça? Il n'y aurait pas une autre façon de procéder? Y a-t-il une autre façon de procéder dans le monde qui pourrait bien fonctionner tout en bénéficiant des meilleurs prix possibles pour le lait? Là?
C'est sûr que si tu regardes, si on est honnête ce matin, là, si tu regardes du côté du consommateur, le système actuel au Canada, il n'est pas winner.
Ben non.
On va se le dire, là, moi j'achète mon lait, là, on est rendu à 18,60$, quasiment 9$ pour 3 sacs, puis là ton gars rentre le soir puis il en vide un.
Le veau.
Hey, là, ça commence à coûter autant que la bière, ça. Là, là,
il y a toujours bien des limites.
Ouais, c'est ça, là, quand tu peux un peu prendre l'eau, on est rendu là. Fait que, ben écoute, donc ça c'est vrai, mais en même temps, le système a été fait puis pensé depuis des années. Là, c'est sûr que le coût augmente. C'est sûr qu'à terme, on ne sait pas où ça va aller, tout ça. Tu regardes aux États-Unis, c'est plus sous la forme de subventions. Donc, le consommateur a accès à des prix réduits, mais il reste que le gouvernement investit des subventions quand même importantes pour que ces prix-là soient accessibles au niveau des fermiers. Fait que, puis des distributeurs, des transformateurs. Fait que, tu sais, il n'y a pas de monde parfait. C'est sûr que qu'il va avoir un impact là, sur le système des quotas canadiens. Je vois pas le début de la fin d'un système qui, s'il y a des brèches supplémentaires, là, puis là, tout le monde le dit, là, que ce soit le président de l'UPA. J'écoutais hier Richard Ouellet qui était plus spécifique par rapport à des cas de figure sur lesquels on pourrait conserver le système, mais permettre un plus grand accès aux fermes américaines. Il reste qu'à la fin de la journée, là, je vois pas d'aucune façon comment le Canada sort gagnant d'une négociation comme ça. Puis pourquoi, au final? C'est qu'on n'a jamais prévu à l'époque, quand Mulroney négociait dans le temps avec les Américains, qu'on pourrait avoir un cas de figure selon lequel les Américains commenceraient à faire ce qu'ils font maintenant. On l'a jamais prévu, on l'a jamais pensé. Tu sais, le libre-marché, les accords de libre-échange, c'est pas comme ça que ça marche d'habitude. Puis là, on a un joueur qui sort de l'ordinaire, puis je pense qu'il y avait un avant, puis il va y avoir un après, puis il n'y aura pas de retour en arrière.
Au niveau de la prévisibilité, une fois que tout ça va être signé, Frédéric Boisvert, comme le monsieur avec un bronzage en canne, là, ouais. Il est un peu imprévisible, ouais. On va-tu quand même perdre des emplois, justement, parce que les entreprises vont dire « On a signé, mais jusqu'à temps que lui parte, je pense qu'on va ralentir un peu notre exportation. »
Oui, bien, si tu regardes un petit peu rapidement l'histoire politique des Américains, là, qui a commencé à parler de protectionnisme aux États-Unis, c'était les démocrates. Après ça, ça a été les républicains qui l'ont pogné. Là, maintenant, c'est que tout le monde est infecté là-bas. Là. Ça va être très, très, très difficile pour des politiciens américains de revenir en arrière par rapport à ça. Tu sais, fait que je vois pas à terme, même s'il part, là, tu sais, ce serait exemple Gavin Newsom qui arrive président des démocrates rentrent. Probablement qu'il y aurait des aménagements, des allègements, mais comment peux-tu prévoir ta business si tu dis que dans un cycle de 4 ans, il pourrait y avoir un républicain qui rentre qui va être encore plus hawkish? Je veux dire, à fin de la journée, ouais. les chefs d'entreprise du Québec puis du Canada, là, ils ont tous eu la réflexion de se dire, puis ça commence, puis je les vois beaucoup, là, beaucoup de monde et sa diversification. Oui, le marché américain, c'est bon tant qu'on y a accès, mais on ne peut plus baser tous nos œufs dans le même panier, parce que sinon, à terme, c'est la perte de notre tissu économique, ouais. C'est la perte de notre souveraineté économique.
Mais Fred, l'aspect prévisibilité, là, c'est avec Donald Trump, c'est impossible. C'est impossible. Dans un mois, il peut changer d'idée.
Ben, l'accord de 2016, c'est lui qui l'a fait.
Oui.
Alors, au début, il disait que c'était le meilleur accord au monde. Là, maintenant, il mettait ses bottes dessus puis il s'essuyait. Je veux dire, puis demain matin, si on a un accord avec lui, par exemple, 22 août à minuit, il n'y a rien qui dit que dans 2 semaines, il ne va pas. Fait que je te dirais que le Canada a une menace existentielle dans sa souveraineté économique parce qu'actuellement, on est traité comme un État vassal. On est comme un comptoir colonial.
Oui.
Qui se fait littéralement là, fouetter à gauche puis à droite. On soit les baffes à toutes les semaines. C'est pas drôle. Mais on est un petit peu aussi responsable de ce qu'on a vécu à date parce que je pense qu'on n'a pas fait tous les bons moves à date. On a dormi sur la switch longtemps. Je venais parler, les gars, dans les dernières entrevues qu'on a faites ensemble. On s'est toujours basé sur une devise faible. On a toujours imaginé qu'on aurait toujours accès au plus grand marché de consommateurs des Amériques. Puis là, on se rend compte que l'accès, il commence à être plus difficile. Fait que bref, le Canada puis le Québec a un reckoning qui est vraiment important à faire. Puis le mot d'ordre, c'est la diversification, réduire nos zones de friction avec le marché. Tu sais, je veux dire, le Mexique, c'est un joueur avec lequel il faut absolument s'entendre. C'est essentiel. L'Europe, il faut approfondir nos marchés avec eux autres. L'Asie, l'Afrique est le seul continent où il y aura de la croissance soutenue au niveau démographique. Pour les 50 prochaines années, il n'y en a pas d'autres. Fait que bref, il faut s'orienter.
Là. On n'est plus des frères, on est rendus des collègues.
Justement, ma question portait sur la diversification. T'sais, on a vu Mark Carney aller beaucoup en Europe, essayer ouais, de tisser des nouveaux liens économiques, développer des grands projets au Canada. Jusqu'à quel point ça peut venir contrebalancer ce qu'on perd avec les États-Unis?
À court terme, pas énormément.
Non,
parce
ouais,
que
c'est
tu
ne
peux
ça.
Pas développer un marché du jour au lendemain. Puis malgré tous les accords que M. Carney va pouvoir signer, il reste que dans la réalité du day-to-day des business, là, c'est qu'il va falloir qu'on ait... Puis c'est commencé, je le vois beaucoup, là, dans la, je vous l'ai dit dans les dernières fois, l'automatisation, la digitalisation, ouais. L'IA dans les procédés administratifs, dans les moyens de production, dans les chaînes de montage. Fait que tout ça permet d'avoir une plus-value sur ton produit qui te permet d'absorber des coûts de transport puis de conquérir d'autres marchés. Mm-hmm. Puis ça, actuellement, on est en cours de le faire, puis il va y avoir une transformation, puis il va y avoir des compagnies qui vont tomber, il y en a qui vont percer, mais il reste qu'à terme, c'est beaucoup d'ouvrages. On va avoir de la sueur, des pleurs et un petit peu de sang.
Donc, la défaite qu'on vit aujourd'hui contre les États-Unis, ça va nous impacter sur combien de temps? Quoi, un 5, un 10 ans?
Ah, écoute, c'est une transformation de l'économie qui va se passer, là, parce que pour des années à venir. Puis, mais il reste que c'est nécessaire, c'est salutaire, il faut passer au travers ça, c'est comme une purge. Mais puis, écoute, le marché américain va demeurer, là. Ça sera toujours un marché important, mais on ne peut plus faire une confiance aveugle aux Américains, c'est terminé.
Devant ceci, puis là, je ramène à la politique québécoise, il y a Éric Duhaime qui a présenté son plan de coupure, 47 milliards sur 5 ans. Il y a le retrait total des subventions pour ce qui est des entreprises. C'est-tu viable dans la situation économique que là, on va être plongé?
Je ne commenterai pas la position politique du PCQ, mais je vais vous dire que le poids de l'État dans l'économie est devenu beaucoup trop important.
OK.
Beaucoup trop important.
Parfait.
Tous les États européens qui se sont renouvelés, comme je vous ai parlé du miracle de l'Irlande à un moment donné, tout ça, c'est tous des pays qui ont déréglementé, qui ont réduit le poids de l'État et qui ont dynamisé leur marché. Bref, actuellement, là, je vous dirais que la crise de la main-d'œuvre qu'on a vécue depuis des années au Québec, là, c'est un peu manufacturé parce qu'à un moment donné, l'État emploie beaucoup, beaucoup de monde. Quand vous voyez les chiffres sur l'emploi, là, vous avez des statistiques qui arrivent avec Statistique Canada. Il faut toujours regarder la composante emploi public. Puis là, récemment, ça a recommencé avec le secteur privé remonté, mais généralement, il y a toujours une partie importante de ces nouveaux emplois-là qui appartiennent à l'administration
publique. Ça, c'est des gens qui ne vont pas travailler dans le privé, évidemment.
Un. Deux, c'est des pensions.
Ben oui.
C'est... Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut arriver. La clé, là, c'est la démographie des boys, là. On n'a plus les moyens d'avoir un système comme on a là. Il va falloir qu'il se passe de quoi. Là. Je ne sais pas c'est quoi qui va se passer,
d'ici
2030, mais c'est beaucoup trop cher.
D'ici 2030, c'est 25% de la main-d'œuvre active qui prennent sa retraite.
Oui, c'est ça. Fait qu'imagine les...
Fait qu'il faut trouver des moyens de garder nos gens plus âgés. Là. Donc, moi, j'en ai 50, puis il y en a 60 qui ont de travailler. Il faut les garder sur le marché du travail.
Avec l'intelligence artificielle, c'est 1,2 milliard de personnes, 1,2 million, excuse-moi, de personnes qu'on doit former au Québec. 1,2 million.
Ah, c'est énorme.
C'est majeur. Puis ça, c'est un autre défi, la formation. Écoute, on a des défis, mon chum, là, ça n'a pas de sens.
Puis ça nous donne la chance de te parler avec tous ces défis-là.
Ben oui.
On est quasiment gâtés dans quelque chose qui est quand même négatif. Hey, dès 2027, les industries et les commerces de Québec subiront une hausse substantielle de la taxe sur l'eau et les matières recyclables. Le maire le dit, on n'a pas le choix, faut sortir le bâton de la taxe, c'est ses mots. Est-ce qu'on va revenir comme les années 60, 70, 80, où fallait-tu mettre une petite dizaine là, quand tu allais chez un commerçant pour pouvoir aller aux toilettes? Parce que là, à un moment donné, il faut que le commerçant prenne son argent quelque part.
Ouais. Ben, si vous me permettez de mettre la table, là, je reviendrai au temps de M. Labrosse. Bon, quand M. Labombe est arrivé à mairie, il a fait un méchant ménage des finances de la ville de Québec. Puis M. Marchand a eu l'intelligence de continuer ça. Fait que le service à la dette actuellement, là, il est toujours en régression. Ça n'arrête pas de descendre. Mm-hmm. La dette totale, la dette nette de Québec ne fait que descendre. Fait qu'on est la seule grande ville au Québec en santé financière. Puis ce qui est bon, c'est qu'on va connaître une croissance démographique majeure jusqu'en 2050. C'est ce que l'ISQ nous dit. Si on va maintenant au niveau des deux parts de taxation qu'il a indiqué. Le recyclage puis l'eau. Moi, je veux commencer avec l'eau. L'eau, là, c'est bien distinctif de ce qu'est le carton. L'usine de traitement, actuellement, elle a besoin d'investissement parce qu'on va connaître un accroissement démographique. Ouais. Ça, c'est comme investir dans ton plancher, dans tes armoires de cuisine.
En effet.
T'as pas le choix. Ça, t'as pas le choix.
C'est comme quand ta toiture vient à date d'être changée pour ta chambre.
Toutefois, les boys, c'est que moi, quand le maire a parlé, il a dit, en fait, plus tôt cette année, il a dit qu'au Québec, à Québec, on a une croissance démographique qui était forte, mais le niveau de consommation d'eau n'a pas augmenté.
Ha!
Intéressant! Fait que moi, je le suis parce que je me dis, si le niveau de consommation n'augmente pas, c'est qu'on est raisonnable, puis normalement, les entreprises ne devraient pas être taxées. Alors là, ça va être... Puis moi, ce qu'on je demande clairement, c'est que si jamais tu veux faire un scheme de taxation, donne-nous une période tampon d'un an où on évalue les habitudes de consommation puis on prend vraiment la mesure de ce qui se passe. Ça, c'est l'eau. Mais de toute façon, on n'a pas envie de vivre ce que Lévis vit en ce moment. Lévis a de la misère. Lévis, l'économie de Lévis, ça va être difficile parce qu'il y a plein de permis de construction qui ne se donnent pas. Il y a plein de développement qui ne se fait pas. Mm-hmm. Et moi, je connais plein de membres qui ont investi là-bas, qui mangent leur bas.
Puis là, sauf erreur, là, si notre consommation d'eau augmente pas, faut quand même prévoir le coût en travail, en investissant dans notre usine. Ben oui. Le maire investit-tu dans l'usine?
Absolument, absolument. Non, non. C'est ça. Puis en partie, ça va être ça. Fait que si on a un taux de taxation non résidentiel parmi les plus bas au Québec à 1,9, comme on l'a eu la dernière fois, bien, il va falloir que something's gotta give. Bon, ça, c'est l'eau. Maintenant, le carton. C'est vrai que le carton, ça coûte très cher le procès en ce moment parce qu'il n'y a pas grand commerce qui font attention là-dessus. Ils mélangent tout. Bien, l'affaire, c'est que. Le maire l'a dit, puis moi, je vais suivre ça parce que si jamais ça change, je vais être là au rendez-vous. C'est que pour les entreprises qui vont faire du recyclage dans les règles de l'art, normalement, il n'y aurait pas de coût pour eux autres. C'est ce qu'il a dit. Alors moi, je vais suivre ça attentivement parce que si on fait un recyclage de carton, puis c'est sûr que c'est long, là, on comprend. Là, d'habitude, c'est bien plus facile de garocher son carton dans la poubelle, tout ça. Mais il reste qu'à terme, quand tu fais le processing dans l'usine là-bas, ça coûte cher. Mm-hmm. Fait que dans l'incinérateur, tout ça.
Mais là aussi, il faut avoir une période de tampon pour que les.
Exactement. Moi, c'est ce que je demande. Ça prend au moins un an ou la période au cours de laquelle on peut s'ajuster. Puis surtout, ben, accompagner les entreprises. Là, parce que c'est beau garocher une taxe, mais si les gens ne savent pas exactement quoi faire, on n'est pas plus gagnant. Puis dites-vous une chose, là. Ça, c'est une chose qui s'ajoute sur le load des chefs d'entreprise. Là. Ils en ont plein les bottines, les autres-là. Là. Ils ont une guerre tarifaire, ils ont des règlements au niveau provincial, fédéral qui leur bouffent du temps de conformité à mort à toutes les années. Fait que, puis surtout dans une crise tarifaire, là, on peut-tu donner une chance? Là?
Regarde,
on peut-tu donner une chance?
Faut faire une pause, Fred, mais un gros merci d'être passé. Reste là parce que je veux te féliciter. Excellente chronique dans la rubrique Opinion du Journal de Québec où tu parles de l'aéroport de Québec. Décoller de Québec, c'est faire grandir Québec. Ça, c'est le titre. Et t'amènes les statistiques que je trouve franchement intéressantes. En 2025, YQB, donc l'aéroport de Québec, a accueilli 1,82 million de passagers en hausse de 4,7 et dégagé un résultat net de 8,8 millions de dollars contre 3,6 millions en un an. C'est une satisfaction aussi. Le taux de satisfaction est à 9,1 sur 10. Super. C'est magique ce qu'ils sont en train de faire. Puis c'est en raison de Stéphane Poirier qui est arrivé.
Magistral, ouais. Magistral. Puis je dirais que Gaétan Gagné, lui, avant, parmi les gros investissements. Mais je terminerai en disant que le projet d'hôtel qu'il a, là,
ouais,
c'est le signe de la maturité de l'aéroport. Ouais. On rentre dans la ligue des grandes villes où on a toujours des hôtels à côté des aéroports. C'est fantastique. C'est un outil de croissance économique formidable.
Cool. À lire dans le Journal de Québec.
Sur la route, l'accès aux pompiers à la porte, un petit peu de rouge, mais à part ça, ça va assez bien. Quoique Laurentienne, là, vers Laurentienne Sud, la Bretelle, vers Capitale-Ouest aussi, un petit ralentissement.
Merci beaucoup. Après la pause, on va faire un bon gros bulletin de nouvelles. On va recevoir aussi Maïté Blanchette-Vézina, qui est candidate du PCQ dans la Pelletrie. On parlait de la fameuse plateforme électorale du Parti conservateur du Québec et des attaques de Christine Fréchette sur la politique de natalité. Assez particulier comme attaque. 7h01, on revient. Boulevard 102.1.